Bonjour à tous et bienvenue dans les hors-séries de Slice. Comme vous le savez, nous parlons ici de l'entrepreneuriat, de ces hommes et de ces femmes qui ont un jour choisi de monter une entreprise ou d'en prendre la direction. Au-delà des portraits de patrons que je vous propose chaque mois, il me semblait important de m'intéresser à l'écosystème entourant l'entreprise. Dans ces hors-séries, je recevrai ceux qui, au travers des organisations pour lesquelles ils travaillent, aident les entreprises à naître, grandir et prospérer. J'espère que ce nouveau rendez-vous vous plaira. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois François Matins, le directeur des affaires publiques et de l'innovation du GICAT et le responsable de Generate, l'accélérateur des startups de la défense et de la sécurité. Avec François, nous reviendrons sur son parcours universitaire et professionnel, puis nous parlerons du GICAT et de Generate, dont vous avez beaucoup entendu parler dans les épisodes précédents, notamment avec Aleph Networks, Elika Team et Numalis. Cet épisode a été enregistré en février, avant le début de l'expédition Deep Time, à laquelle François a participé pendant 40 jours. On lui souhaite un bon retour parmi nous, et je vous laisse maintenant avec la suite de l'épisode. Bonjour François.
Bonjour Marjolaine.
Merci beaucoup de me recevoir là où se trouvent les bureaux du GICAT. Les auditeurs ont bien suivi les derniers épisodes. On a eu beaucoup de startups qui sont passées entre tes mains expertes. Du coup, je me suis dit, il fallait vraiment que je vienne te voir pour qu'on parle de Generate et puis pour qu'on parle du GICAT. Donc, je pense que d'abord, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, ça serait bien de te présenter. Est-ce que si tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais au GICAT et dans Generate, puis après, on rentrera dans le vif du sujet.
Avec plaisir. Merci Marjolaine pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir échanger avec toi. Donc moi, je suis François Matins, le directeur des affaires publiques et de l'innovation du GICAT. Donc à travers ce spectre-là, je travaille sur tout ce qui est les relations parlementaires et publiques, politiques au global pour le groupement industriel de la défense et de la sécurité que je représente. Et une autre partie de mon travail, c'est donc directeur de l'innovation où j'essaie de travailler sur l'écosystème de l'innovation, start-up, PME, ETI et grands groupes, et évidemment instituts de recherche et entités étatiques. Je suis monté en puissance progressivement là-dessus suite à la création de Generate que tu as évoqué, donc qui est le premier accélérateur de start-up dédié à la défense et à la sécurité. Qu'on a créé avec ma collègue de l'époque, Mathilde Herman, il y a maintenant 4 ans.
Voilà, Mathilde qui est maintenant à l'agence Innovation.
Exactement,
de défense.
Tout à fait. Mathilde, voilà. Qui s'est fait débaucher par un certain Emmanuel Kiva qu'on a croisé à une époque au GICAT. Et donc Mathilde a été une des premières à croire en ma folie, à créer ça dans une logique intrapreneuriale au sein du GICAT. Et maintenant, on est content parce qu'on a des belles success stories et on voit que ça contribue bien à notre petit niveau, à l'écosystème, et on continue d'avancer dans ce domaine-là.
Alors toi, avant d'être au GICAT, si on peut revenir rapidement sur ton
ma
parcours,
vie, mon œuvre.
Ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Enfin, tu
viens d'où? T'as une demi-heure, Marjolaine?
Vas-y.
Moi, j'ai commencé, je suis un matheux à la base. J'ai fait une prépa scientifique, sauf que j'étais mauvais en maths. Si vous voulez, quand t'as 5 ans maths au bac et que ensuite derrière tu rentres en prépa mathématiques, les journées sont un peu longues. Donc avant de
mais
partir,
tu t'es perdu, qu'est-ce
bah
s'est
non,
passé
mais bon, tu sais, c'est le système scolaire français. Hein, on estime que t'es bon en maths, si tu veux réussir dans la vie, tu fais une prépa sans te demander vraiment ton avis et tu pars là-dedans.
D'accord.
Le projet qu'il y avait vraiment derrière, c'est que je voulais être pilote de chasse. C'était un de mes rêves de gosse.
Ouais,
et donc,
mieux,
la voie royale, c'était quand même passer par une prépa. Et donc, le problème, c'est que clairement, j'avais pas le niveau et j'étais pas prêt à faire des efforts pour y arriver. Et donc, j'ai essayé de trouver un prétexte pour faire des études qui me permettraient de voyager. Et donc, du coup, j'ai fait des études de relations internationales. Des études que j'ai adorées.
Dans quelle école?
Dans une époque qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle d'ailleurs HEIP, donc d'accord, une école spécifique de relations internationales à Paris. Et j'ai fait tous mes stages dans le système onusien. Donc j'ai été à Vienne, à New York, et notamment j'ai terminé mon stage de fin d'école là, à l'UNESCO, où j'étais diplomate sénégalais. Comme ça se voit physiquement. Mais j'ai adoré, c'était très intéressant, j'ai beaucoup appris en interculturel et en international. Ensuite j'ai repris études en sécurité internationale pour faire un master, et j'ai notamment été collaborateur parlementaire,
d'accord,
d'une sénatrice des Français de l'étranger qui à l'époque avait 91 ans, mais une femme extraordinaire avec qui j'ai beaucoup appris, qui était principalement sur l'Afrique et le Moyen-Orient.
D'accord.
Donc moi j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacé.
Tu peux nous donner son nom peut-être?
Elle s'appelait Paulette Brispierre.
Paulette Brice-Pierre.
Et donc un personnage qui était haut en couleur, mais ouais. Une femme impressionnante, dont même physiquement, la vitesse à laquelle elle marchait, elle courait, elle marchait plus vite que moi.
91 ans.
Et puis elle avait une vivacité d'esprit qui, franchement, à son âge, si je pouvais être comme ça, serait très bien. Ensuite, je suis passé par le Quai d'Orsay aussi, à la direction des Français de l'étranger, ouais. Où pareil, j'ai beaucoup appris, enfin, très intéressant cette dimension relations consulaires entre les ambassades et l'administration centrale. Mmh. Et ensuite, je me suis dit, bah, tiens, je vais passer les concours administratifs, ça m'intéresse, ministère de l'Intérieur, j'avais fait un petit stage dans la police et j'avais beaucoup aimé. Okay. Et donc, je refais un master 2 en droit public, donc je me relance là-dedans.
Toujours à Paris ?
Toujours à Paris,
tout le temps resté à Paris ?
Toujours à Paris, oui. Et en fait, je partais du niveau zéro en droit public. Donc, quand tu arrives en master 2, que tu as 80% de publicistes qui connaissent par cœur le sujet, toi tu découvres le thème, autant dire que j'ai un peu bûché et
un petit peu.
Bon, je m'en suis pas trop mal sorti.
Ouais.
Plutôt bien. Et donc là, je me dis, bah tiens, j'aimerais bien faire un peu de terrain pour voir. Et donc là, je me retrouve à faire un stage. Qui était une expérience extraordinaire, où pendant plusieurs mois, j'ai fait tous les services de police de la préfecture de police de Paris. Et donc, du coup, je me suis retrouvé une semaine au stup, une semaine à la crime, une semaine à la brigade des mœurs, une semaine.
Mais comment tu trouves. Attends, il y a plein d'auditeurs qui vont se dire, mais comment tu trouves ces stages-là, quoi ?
Bah, c'est le. On en reviendra tout à l'heure, mais c'est le réseau,
ouais.
Le bagou, le culot, la débrouille, ouais. Le bon sens, quoi.
Ouais, c'est, il faut oser. Il faut y aller.
Exactement, voilà. Enfin, qui ose gagne. Hein. Ouais. Donc, moi, le fait est que bah, toutes ces opportunités-là, c'est ce que je dis, moi, ma vie, c'est une succession de malentendus plus ou moins provoqués.
D'accord.
Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, pour essayer de me créer des opportunités, pour réussir un objectif que je m'étais fixé. Ou, tu vois, c'est un peu la sérendipité aussi. Hein, mm-hmm. C'est aussi provoquer du hasard, et puis d'un seul coup, bah, ce hasard, ça peut devenir une opportunité. Et donc, je termine là, je me dis, bon, bah, ok, ça, j'adore le milieu intérieur, sécurité, mm-hmm. j'adore ça. Et le problème, c'est que le concours, les concours que vous voulez passer, commissaire de police, même
c'est,
officier à l'époque,
ouais.
C'est des concours, sincèrement, qui sont à un très très haut niveau, ouais. Dans l'administration. Moi, je connaissais, mon niveau de base, et surtout la volonté de se remettre dans un cycle, de passer des concours, être sur des bancs. Mm-hmm. Intellectuellement, j'étais plus prêt.
Ouais.
Et donc, du coup, j'ai postulé à des écoles à gauche, à droite, et en fait, bah, j'étais pris. Et comme à la fois je suis curieux, puis deux, je suis un peu débile, bah, j'ai fait les deux. Donc, la même année, j'ai fait un master spécialisé à l'ENA et à, okay. l'ESTI en gestion des risques, et un MBA à l'EDEC en criminal risk management.
D'accord, la même année.
La même année.
D'accord. T'avais pas assez de.
Voilà. Là, je m'ennuyais, voilà. Donc fallait, c'était, voilà. Très bien.
Fallait meubler.
Et donc, bah, passionnant, parce que si tu veux, les problématiques étaient les mêmes sur le papier, sauf que tu avais un monde qui était très public. Voilà, l'ENA, l'ESTI, vraiment le côté gestion des risques territoriales,
ouais.
Et un côté gestion des risques business, côté de l'EDEC. Et donc, vraiment intéressant. Et il fallait faire une expérience pour valider, en gros, un peu une logique d'alternance.
Mm-hmm.
Et je me suis dit, voilà, j'ai 21-22 balais, je vais tout de suite anticiper la potentielle crise de la trentaine ou de la quarantaine que je vais avoir, c'est-à-dire faire un métier qui ne m'intéresse pas.
D'accord.
Et donc j'ai coché, je me suis dit,
directement,
je vais faire,
ouais.
Exactement, je vais faire tout ce que je veux pas devenir dans la vie. Et donc j'ai coché la case et je me suis dit, je veux surtout pas être obligé de mettre un costume cravate,
d'accord.
De prendre la ligne 1. Pour aller à la défense, pour être dans
pour
une
les
tour,
parisiens
et pour être dans un open space.
Les non-parisiens.
Exactement.
Ne comprendront pas.
Mais bon,
mais
ils vont,
bon.
Voilà. Mais en gros, pour être faire un travail de bureau, ouais. Dans open space en costume cravate, parce que t'es obligé. Et pour moi, c'était le summum de l'angoisse.
D'accord.
Et donc bingo, j'arrive chez AXA, donc le milieu de l'assurance,
AXA,
autant te dire,
ouais.
Que c'est un secteur qui me passionne pas plus que ça, auprès du directeur risque, sûreté et compliance d'AXA Group Solutions. Et en fait, voilà, sur le papier, c'était horrible, mais j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire, Benjamin, je sais pas si il écoute, qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup formé, et que je remercie encore aujourd'hui, parce que c'est une des valeurs aussi que je transmets dans ce que je fais à côté, dans l'enseignement, c'est que il y a peut-être plein de critères objectifs qui font que ça se passe pas bien dans une entreprise, ou que voilà, ça vous attire pas, mais c'est toujours l'humain qui va faire la différence,
ouais.
Et là, Benjamin, à l'époque le directeur, m'a fait très vite confiance, il m'a appris à apprécier mon job, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et à l'issue de ça, ça dure un an, je sais pas trop ce que je veux faire, Et en fait, il y a des anciens de cabinet ministériel qui, des anciens de cabinet ministériel qui montent une entreprise en com digital, com d'influence, et ils disent est-ce que tu veux venir avec nous monter la boîte, voilà, on est trois pour l'instant, est-ce que ça te dit? Choix, bah ok, très bien, monter une boîte, j'y connais rien. Et donc voilà, donc je rejoins un peu l'aventure entrepreneuriale avec ces deux associés. Et avec un ami qui était également en cab avec moi. Et donc on monte la boîte, écoute, c'est vachement formateur. Après, moi je m'éloignais un peu de mes sujets qui étaient très régaliens et stratégiques, où du coup je m'ennuyais un peu. Enfin, je voulais pas travailler pour des grandes marques de téléphone ou de maquillage, c'était pas trop mon sujet. Et en parallèle de tout ça, j'avais toujours gardé un pied dans la défense et la sécurité, parce que j'ai été pendant 4 ans le président des jeunes de l'IHEDN.
Oui. IHEDN, alors l'Institut des Hautes Études...
Défense Nationale. Défense voilà, Nationale. Qui est un service du Premier ministre, c'est ça l'association qui est encore aujourd'hui, hein, la première association française de jeunes qui travaille sur ces questions-là. Donc j'avais toujours gardé un pied dans la défense et la sécurité. Et donc un jour, bah, je reçois un appel du JICAT en 2013 qui me dit « Écoutez, je suis le délégué général, on cherche un nouveau DIRCOM, on cherche quelqu'un qui connaît la communication. Bon, j'ai vu que vous étiez passé par ça. Et puis qui connaît un peu la défense et la sécurité. Bon, voilà, j'avais quand même coché quelques cases. » Donc je passe l'entretien, ça se passe. Et puis je déboule donc de janvier 2014 au JICAT, où je suis directeur de la communication. Ce que je fais pendant un an et demi, voilà, j'essaie de travailler pour un peu dépoussiérer le secteur du terrestre, qui n'a pas forcément la meilleure réputation avec des gens qui se roulent dans la boue là où d'autres volent, c'est magnifique, et ou sur des bateaux magnifiques. Nous, des chars qui roulent dans la boue, c'est
bonjour
pas forcément sexy.
Bonjour Ogiface et
Ogican. Exactement, dédicace Ogiface et Ogican. Mais voilà, il y a un secteur, voilà, le secteur terrestre est de facto un peu moins sexy pour le grand public. Donc voilà, c'était un peu travailler sur l'image, comment améliorer la communication interne des membres, que, un sujet que tu connais, et en externe aussi valoriser l'image. Et puis au bout d'un an et demi, deux ans, je dis voilà, comment on s'occupe de tout ce qui est affaires publiques, lobbying. Ils me disent bah on le fait pas vraiment. Je dis bah écoutez, c'est un peu dommage pour un moment professionnel, il y a peut-être un truc à faire quoi. Donc je passe un été, je prends très peu de vacances et j'écris en gros toute une stratégie d'affaires publiques et de lobbying. Et à la fin de l'été, je pose ça sur le bureau de mon nouveau DG. Je lui dis voilà, bah c'est ça qu'il faut faire si on veut que ça soit un groupement qui ait son mot à dire, qui représente et qui soit influent sur nos sujets. Et il me dit « Ok, banco, allez-y ». Donc je crée la direction affaires publiques au sein du JICAT, donc pied que j'ai toujours aujourd'hui, où l'idée c'est créer tout le réseau institutionnel, au global, tout ça. Et il y a maintenant, donc, en plus de ça, parce que je commençais, voilà, je vais dire, je rentrais dans un rythme de croisière qui allait très bien, mais voilà…
Il faut se diversifier, pour, voilà, faut exactement. Toujours faire plus de
et
choses.
Et puis pour avoir traîné dans le monde des startups un peu par le passé et autres, je vais voir donc, en interne et je dis « Voilà, ce serait bien de créer un… » Alors à l'époque, je parle d'un incubateur pour la défense et la sécurité. Juste, je remets dans le contexte, tout ça, c'est avant même que la ministre Florence Parly soit là et que l'idée de l'idée existe, quoi. Donc sans l'idée d'être plus intelligent ou un précurseur, on a quand même, voilà, on a essayé de prendre des signaux faibles pour OJCAT, essayer de créer quelque chose avant que ça soit à la mode, même si c'est ce que dit souvent Emmanuel Quimin, c'est pas parce que c'est à la mode que ce n'est qu'une mode. Voilà, se lancer un peu là-dessus. Et donc je lance ça vraiment en interne, donc sur mes soirs, mes week-ends. J'en parle à Mathilde, qui est la seule folle qui à l'époque
c'était dit, Madame PME toi, à l'époque.
Je crois ton sujet, on va faire un truc. Donc on mouline avec mes apprentis, avec Anne-Sophie, on bosse là-dessus et on arrive avec un projet qui tient la route. Et en gros, je le présente en interne. Je t'avoue que la réception de certains industriels n'ont pas été fana. Et en gros, je leur fais simple. Je leur dis, écoutez, si vous dites que ça, si ça marche, vous dites que c'est grâce à vous. Et si ça marche pas, ce sera de ma faute.
Voilà, c'est ça.
Et vous pouvez m'engueuler. Et donc, ils me disent, ok, très bien, on va faire comme ça. Et donc, au final, bah, tant mieux pour tout le monde, ça fonctionne. Et donc, aujourd'hui, Generate, donc, qui est cet accélérateur, c'est 44 startups dans la défense et la sécurité qui vont de la food en passant par l'intelligence artificielle, le camouflage, Franky Zapata, l'intelligence artificielle, enfin, là, plein de choses. Et c'est un programme qui cartonne, même qui marche trop bien parce que ça commence un peu à tirer la langue pour faire tourner la boutique. Et donc, il y a trois grosses missions. La première, c'est vraiment détecter des pépites françaises qui peuvent avoir un intérêt pour l'écosystème opérationnel ou industriel. Et l'idée, c'est de les faire monter en puissance, de les prendre par la main pour leur dire, voilà, la défense, ça marche comme ça, la sécurité, ça marche
on
comme
connaît
ça.
Bien le milieu,
et on lui ouvre les codes et on lui ouvre les portes. Le deuxième aspect, c'est un volet de sourcing à travers le monde de ce qui se fait dans la défense et la sécurité pour voilà, une logique de veille en disant, bah, tiens, vous savez que ça, les Américains ont fait ça, les Chinois, autre chose. Ça peut susciter des idées. Et après, il y a un autre volet. qui moi alors avec le Covid c'est plus compliqué mais qui je trouve ça vachement intéressant. Donc moi je bosse pas mal sur l'open innovation, c'est d'aller dans des endroits ou dans des salons qui n'ont absolument rien à voir avec la défense
pour voir des choses qui pourraient servir
exactement la santé du futur, la logistique du futur, je sais pas quoi, évidemment le CES et tout ça, enfin tous les salons qu'on connaît bien, mais des niches parfois un peu plus spécifiques, et c'est de récupérer ou de détecter des briques techno en disant tiens mais ça là ça peut répondre à un besoin d'un marché défense. Et eux, je leur explique que je leur ouvre potentiellement un nouveau marché parce qu'ils n'avaient pas vu ça, parce que c'est un milieu un peu fermé. Et moi, la défense, je leur dis, mais écoutez, arrêtez de développer de A à Z ça. Sachez que dans cet écosystème-là, ça existe déjà.
On peut trouver la ressource.
Il suffit de leur peindre un peu en kaki ou en bleu marine. Et,
ça marchera
et
pour la
gros,
défense.
Et en gros, ça pourra répondre à 90% du besoin. Et donc, c'est hyper intéressant parce que j'échange avec des directeurs innovation, si eux, qui n'ont absolument rien avec moi. Directeurs innovation dans le sport... dans le cosmétique, dans l'automobile. Et du coup, en termes d'intelligence collective, pour moi qui est un des sujets majeurs pour faire avancer le monde sur l'innovation, c'est parler à des gens avec qui on n'a pas de raison de parler. Et ce
et
système permet
de
créer des
synergies,
de se dire bah tiens, c'est vrai que c'est pas bête ce qu'il dit, peut-être que ça va m'inspirer et inversement transmettre des messages dans l'autre sens.
Ok, bon, tu cours trop vite parce que tu m'as déjà présenté Generate. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière.
Pas de problème.
En 1978, peut-être n'étais-tu pas
je
là.
Je n'étais pas né, je te confirme.
Mais le groupement, donc le J4, donc c'est le groupement des industries terrestres et aéroterrestres.
C'est ça, et de sécurité.
Et de sécurité, est créé.
Exactement.
Quel est le but à la base dans la création du J4?
Alors à la base, J4, ça veut dire groupement d'industrie concerné par l'armement terrestre. En gros, c'était une création d'EGA et Armée de Terre.
Donc on rappelle Direction Générale de
l'Armement.
Direction Générale
de l'Armement, autant pour moi et l'Armée de Terre, qui était de se dire, voilà, plutôt qu'à chaque fois discuter avec les industriels en point à point, il faudrait qu'on crée un organe où les industriels du terrestre se regroupent, comme ça quand on veut faire passer des messages ou prendre des informations, créer un canal de dialogue, ça sera plus simple d'avoir une tête plutôt qu'à chaque fois, à l'époque, aller voir GIAT, aller voir Renault Trucks Défense, Panhard et autres.
Okay.
Donc création du J4 en 78, qui est vraiment dans une logique, char, véhicule, canon, enfin vraiment le cœur de métier de la chose. L'idée, c'est on se diversifie de plus en plus. Et aujourd'hui, le J4, ça représente 290 membres qui vont de la petite PME qui fait des boulons en passant par des gros industriels qui sont Thales, Airbus, Nexter, Arcus et autres. Et évidemment, toute une panoplie, plus de 65% de PME qui sont des vrais PME à valeur ajoutée dans le service, dans l'intelligence artificielle, dans les communications. Voilà. Donc aujourd'hui, l'image uniquement du terrestre ou du véhicule ou du char, ça devient de moins en moins vrai parce que de par l'évolution de l'écosystème, on se tourne de plus en plus vers tout ce qui est numérique, vers tout ce qui est service, vers tout ce qui est système de communication, même si évidemment il reste toujours chez nous des plateformistes des gens qui font des véhicules.
D'accord. Et concrètement, quand je suis une PME ou un grand groupe, j'adhère au J4, je viens vous voir. Quels sont les services que je peux avoir? Comment vous soutenez ces entreprises? Qu'est-ce qu'elles peuvent venir chercher auprès du J4?
Elles viennent un vrai accompagnement, alors personnalisé, c'est pas vrai, mais en tout cas très proche, mais un peu comme il peut y avoir dans d'autres groupements. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on offre tout un panel de services. Leur faire une veille sur des brevets, leur faire des études pays, des études de marché. On anime beaucoup de commissions thématiques pour permettre de l'échange d'informations entre eux. Et puis après, on a un système aussi de hotline. En gros, dès qu'ils ont un problème, ils nous appellent. Alors parfois, c'est un peu épuisant parce qu'ils nous appellent pour des choses qui ne nous regardent pas ou qui sont à des années-lumière de ce qu'on peut faire. Mais voilà, on est dans une logique de les rassurer, de les accompagner. Et moi, en tout cas, c'est la manière dont je travaille et mes collègues aussi dans la majorité. Je ne dis jamais non. C'est qu'à chaque fois qu'on pose une question, je dis oui, bah ok, c'est ça. Ou attends, je sais pas.
Regarder,
donne-moi 48-72 heures, je vais te trouver la bonne personne. Et à 95% du temps, j'arrive à apporter une réponse à la personne qui m'a demandé quelque chose, même si c'est est-ce que tu connais un expert comptable, est-ce que tu connais un avocat, est-ce que tu connais une agence de com, est-ce que tu sais qui est un tel. Voilà, moi, c'est une manière aussi de rendre service, parce que c'est pour ça qu'on est payé, on est association 1901, on est vraiment un groupement qui est au service de nos membres, c'est de pouvoir répondre au mieux à leurs besoins, et c'est pour ça qu'on est payé, et on se fait un plaisir de le faire dès qu'on peut le faire.
D'accord. Et au niveau des commissions, il y en a combien ? Enfin, je sais qu'il y a PME.
Alors,
ouais,
il y en a aujourd'hui, il y en a 6-7 qui tournent. Si tu veux, ça bouge régulièrement là. Il y a une réflexion qui est en train d'être menée pour faire une commission RH.
D'accord.
Parce
oui.
qu'on se rend compte que dans notre écosystème, les
c'est
problématiques RH.
C'est un vrai
RH,
sujet. Le recrutement, c'est un.
C'est un sujet même plus global qu'aujourd'hui en France. On a perdu une vision industrielle et on n'a plus de politique industrielle depuis 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, en termes de métier et d'emploi, on se rend compte que avoir un maître tourneur fraiseur, avoir un électrotechnicien, autre chose, et nos industriels nous disent malheureusement, les formations n'existent plus en France. Donc, je suis obligé de recruter pour pouvoir faire ça dans ma PME ou même dans des grandes entreprises. Naval Group, aujourd'hui, a créé un centre de formation internalisé parce que ça n'existe plus en France. Donc, aujourd'hui, globalement, on est obligé de chercher des compétences en Allemagne, en Belgique, en Suisse, parce qu'en France, on s'est dit que l'industrie, c'était pas super valorisable, donc ça sert à rien de maintenir des filières. Donc tu vois, on travaille sur ces... L'idée, c'est qu'à la fois, on répond à du besoin le plus possible et on essaie d'anticiper aussi des problématiques qui peuvent émerger pour les proposer en amont le plus possible à nos membres. On voit ce sujet qui monte, ce serait peut-être bien qu'on commence à creuser là-dessus. Quoi.
Ouais. Et le J4 est extrêmement présent aussi à l'export.
Exactement, c'est une grosse partie parce qu'aujourd'hui, dans notre écosystème, 50% du chiffre d'affaires de nos industriels est à l'export. Donc évidemment, une grosse partie de nos activités le sont aussi. Donc pour ça, on a un très bel outil qui s'appelle Eurosatory, qui est le plus gros salon de défense et de sécurité au monde.
Ah, c'est pas des SEI ?
Non, c'est pas des SEI. On est meilleur que les Anglais. Ça fait du bien
bonjour
de le dire.
Bonjour aux Anglais. Bonjour à nos amis.
Même si on les regarde de près, mais pour l'instant, on est toujours devant. Donc on a Eurosatory, qui est un très beau salon qui a lieu tous les deux ans. Et en plus de ça, on a trois salons qui sont Expo Defensa
en Colombie.
Ouais. Shield Africa en Côte d'Ivoire et Platinum Security qui avait encore lieu là il y a 15 jours à Monaco qui est spécifique sur les sujets de sécurité privée. Et en complément de tout ça, on anime des pavillons France où le prochain sera très prochainement au Middle East où on amène des entreprises françaises sous un pavillon France commun pour arriver en équipe France pour aider ces industriels à avoir plus de visibilité et puis des petites PME qui plutôt que d'être noyées
dans
la masse, elles arrivent au milieu d'une équipe France avec nous qui les accompagnons et puis voilà une bienveillance et une logique vertueuse en disant écoutez les gars on est tous ensemble on est plus forts tous ensemble donc on va le montrer sur un salon à l'export.
Et donc tout ça c'est opéré d'une main de maître par le COGES.
Exactement, le COGES qui est le bras armé événementiel opérationnel sur ces sujets là qui fait un énorme travail avec toujours en équipe réduite mais ils font un super boulot donc on travaille en synergie complète sur ces sujets là à l'export.
Est-ce que dans le J4, il y a une logique, tu sais, de proposition, de réponse à des appels d'offres ?
Parce que nous, on ne répond pas à d'appels d'offres J4 in situ, parce qu'on n'a pas l'entité juridique pour le faire.
Ouais.
Enfin, et puis même, ce n'est pas non plus au-delà de l'entité juridique, on n'a pas forcément la volonté de le faire. En revanche, nous, le J4, on se pose clairement en partenaire de confiance pour mettre autour de la table. Nous, on est vraiment les Suisses du secteur. On essaie de positionner le plus de gens, des gens qui, a priori, aimeraient pas trop se parler parce qu'ils sont concurrents.
Les faire se rencontrer
voilà,
pour
en venant
voir
ici,
comment
on essaie de créer un socle commun pour même si t'es concurrent, on pose tout à plat. Certes, on va pas tout se dire, mais au moins on peut discuter dans un cadre neutre qui te permet d'aborder certains sujets que tu pourrais pas faire. Donc ça vaut pour des boîtes concurrentes, mais ça vaut aussi pour des startups, des PME, des ETI et des grands groupes qui peuvent se rencontrer. Là où c'est plus compliqué en point à point. Quoi.
D'accord. Moi, je disais aussi ça par rapport au cluster que le J4 a monté récemment. Enfin, récemment.
Ouais. Il y a 2-3 ans maintenant.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a 2-3 ans, notamment le cluster Data Intelligence,
exactement.
Etc.
Tout à fait.
Qui bosse concrètement sur certains sujets un peu stratégiques de la défense.
La logique d'un cluster, c'est une logique un peu plus opérationnelle et business. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le J4 qui va pousser une offre, le J4 héberge des industriels qui réfléchissent à constituer une offre. Ou en gros, plutôt que de faire des réunions, on se partage que l'information. Là, vraiment, il y a une logique de se dire bon, ok, là-dessus, ça, toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Moi, comment je peux être complémentaire ? Et de réfléchir à une projection beaucoup plus business ensemble sous l'égide du J4. Mais ce sont les industriels qui portent cette offre, ce n'est pas le J4 qui va le faire à leur place.
D'accord, ok. Et est-ce que les actions du J4 vont au-delà du MINARM, enfin ministère des Armées ou ministère de l'Intérieur ? Parce qu'on sait que vous êtes en étroite collaboration, notamment pour les PME, avec la sous-direction PME de la DGA,
oui.
etc. Et puis avec le ministère des Armées de façon voilà, globale, quotidienne, on va dire. Exactement. Est-ce que ça va parfois au-delà? Il y a d'autres missions sur lesquelles vous êtes
bien
en prise?
Bien sûr, tout à fait. Nous, évidemment, c'est nos deux cœurs de métier, c'est la défense et la sécurité. Mais on échange aujourd'hui avec, sur certains aspects, avec le ministère des Finances,
oui.
Ce soit des problématiques douanières, avec le ministère de l'Environnement aussi sur certains aspects, quand on travaille sur, notamment sur les volets innovation, le ministère de l'Enseignement et de la Recherche pour tout ce qui est aussi la recherche pour les sujets de défense, oui. Les études amont et autres. Donc nous, oui, on est beaucoup pris par nos ministères, on va dire, naturels.
De tutelle, enfin...
Bah, pas de tutelle enfin, juridiquement, de tutelle, mais en tout cas, voilà. de lignée logique par rapport à les sujets sur lesquels on travaille. Nous, on est très preneurs, et c'est pour ça que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on diversifie beaucoup nos activités, et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, le cœur de métier défense, certes, il reste le cœur de métier, mais là où il était extrêmement majoritaire il y a encore 5-6 ans, on sent que voilà, la part de la défense baisse au bénéfice de la sécurité, au bénéfice parfois de problématiques qui, tu vois, aujourd'hui, un gros sujet qui monte. C'est les problématiques environnementales, ouais. Même dans la défense, où aujourd'hui on aurait pu dire encore 4-5 ans, mais n'importe quoi.
Ouais.
Et bah pourtant, les armées aujourd'hui sont très impactées et nos industriels réfléchissent là-dessus. Donc nous aussi, on s'y met. Et donc du coup on doit aborder certaines nouvelles thématiques qui ont encore un an et demi, deux ans, on se disait que ce serait jamais pour nous,
ouais.
Donc ça oblige à aussi à une introspection et une remise en question qui est vachement intéressante, et puis bosser sur des sujets où on connaissait rien il y a encore deux ans, quoi.
Quels sont les gros sujets en ce moment dont on parle beaucoup dans la défense terrestre?
Pour moi, de ce que je vois, il y en a trois. Le premier qu'on suit dans l'actualité, mais je pourrais pas trop m'étaler là-dessus parce que je suis pas un spécialiste, mais c'est la problématique de la consolidation franco-allemande,
ouais.
Qui aujourd'hui va clairement impacté et qui impacte déjà aujourd'hui l'industrie de défense terrestre. Mmh. Donc là, c'est compliqué. Voilà, c'est avec nos camarades allemands, c'est pas toujours facile, mais on n'a pas le choix de réussir, hein, de toute façon. Donc on continue step by step, et voilà, on espère y arriver dans pas trop longtemps pour avoir quelque chose de solide et qui permette d'être au bénéfice de tout le monde. L'autre sujet aussi sur lequel on travaille, c'est sur les problématiques de financement. Où aujourd'hui il y a des vrais sujets sur le monde bancaire et financier qui a, ouais. Plutôt une image négative et donc qui pose des problèmes pour pouvoir financer certaines branches de notre industrie de défense.
Oui, et puis ouvrir des comptes,
voilà,
pour
que ce soit
l'ouverture
de comptes, partir à l'export,
à partir du moment dans certaines banques, à partir du moment où il y a le mot défense, etc., ou armement, c'est
ça pousse à certaines, voilà. Réticences. Donc nous, c'est on ça. Travaille là-dessus, on fait notre boulot de groupe d'intérêt qui, ouais. Permet de pousser le message. On est en échange avec des organismes bancaires pour trouver des pistes de solutions. Là aussi, chacun défend son point de vue, mais on espère trouver dans pas trop longtemps
un terrain d'entente
qui sera constructif, mm-hmm. Et au bénéfice de nos industriels, parce que là, on ne fait pas ça nous pour le J4,
oui.
On fait ça pour notre défense. Et un troisième sujet qui est un vrai sujet de fond et qui est lié à ce que je viens de dire juste avant, c'est que, et moi c'est un sujet que je pousse depuis quelques années, mais là on voit que ça commence à faire évoluer les mentalités, mm-hmm. C'est la problématique de la perception qu'a l'opinion publique de l'industrie de défense. Et donc aujourd'hui, quand on entend industrie de défense, on voit que le côté négatif de ce qu'il y a derrière, alors qu'il y a énormément de choses qui sont importantes sur les volets économiques, sur les volets sociétaux, sur les volets stratégiques, sur les volets politiques. Et ça, on s'est trop longtemps refusé de le faire. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit en 2021, on ne peut plus se permettre de le faire. Et donc aujourd'hui, on est en train aussi, à notre niveau, nous, dans le secteur terrestre, mais avec d'autres, hein, avec nos camarades du naval et de l'aéronautique, de réfléchir à comment mieux faire avancer cette image, mieux travailler sur cette image.
Redorer le blason.
Exactement,
d'une certaine
façon. Voilà, c'est un peu. C'est travailler sur notre légitimité et dire que voilà, on est dans un secteur particulier, on en a conscience, avec des sujets, ouais. Sérieux et stratégiques. Mais à côté de ça, le monde, il n'est pas noir ou blanc, il est gris. Et montrer que nous, c'est jouer sur ces nuances de gris en disant qu'on n'est pas que les méchants dans l'histoire. Il y a aussi plein de points positifs et de côtés vertueux dans ce qu'on fait pour l'économie française et pour la France. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Mais à nous de porter les bons messages, oui. Aux bonnes personnes.
D'accord. Est-ce que tu dirais, attention, question un peu... Est-ce que tu dirais que le J4, c'est un lobby?
Oui, c'est un lobby, mais en plus, moi je le.
Là aussi, il y a de la définition du lobby.
Aucun...
De la définition du lobby.
Mais encore une fois, moi, c'est ce que je dis souvent quand je me définis. Moi, je suis triplement infréquentable parce que je suis lobbyiste dans un syndicat de vendeurs d'armes. Donc autant dire que
tout va bien.
Je suis super bien accueilli en général là où on ne me connaît pas, mais je le vis très bien. Et encore une fois, il ne faut pas du tout avoir peur de ce mot lobbying. C'est qu'on a toujours une connotation négative.
Ah bah oui, tout est de part de la définition.
Mais 99% de mon métier, moi, c'est de rencontrer des gens, c'est de discuter, c'est de faire un travail derrière mon bureau, c'est de faire de la veille. Et cette image qu'on peut avoir du lobbyiste qui se balade avec des valises, qui va faire un tel, voilà. Mais au-delà des domaines, ouais, c'est-à-dire que cette image même du mot lobby est connotée c'est péjorativement en France. Là où dans d'autres pays il est totalement assumé, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis. Hein. Tu vas à Bruxelles, c'est tout à fait assumé de dire ouais, moi je suis lobbyiste, ah ok, super, très bien. Mais en France, on a toujours cette logique. Et voilà, il y a aussi une grosse approche historique, on ne va pas la refaire ici, mais c'est assez marrant de voir qu'on a toujours pourtant cette image-là, alors qu'aujourd'hui on est dans une profession les plus régulées qui existent. Avec Sapin 2, avec la Haute Autorité de transport en la République, enfin bref, avec tout
ce qui a été mis en place.
L'appareil législatif et réglementaire, et heureusement qu'il est là, et bravo, et très bien, et c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que on travaille toujours un peu contre cette image un peu sulfureuse qu'on peut avoir. Et moi, j'assume tout à fait ce mot lobby. Alors, il faut dire affaires publiques, relations institutionnelles, autre chose. Moi, je ne vois pas le lobby sur une approche. Tout le monde fait du lobbying. Les groupements professionnels, les associations culturelles, la défense des animaux, les collectivités territoriales vis-à-vis de l'État font du lobbying. Enfin, tout est lobbying. On passe ses journées à faire du lobbying. Le lobbying, derrière, c'est pas mauvais. C'est convaincre. Persuader, être capable d'écouter les bonnes personnes et de porter des messages au moins. Moi, à partir du moment où on met ça derrière le lobbying, j'assume tout à fait le fait de faire du lobbying parce que c'est interagir avec des gens et c'est défendre les intérêts qu'on a à l'instant T. Donc c'est moi, ça me va très bien.
Ça, c'est une superbe définition pour nous réconcilier avec le mot lobby. Est-ce qu'il y a une partie dans ton boulot qui te plaît le plus au sein du JICAT? Qu'est-ce que tu préfères faire?
C'est ça qui fait la diversité, c'est pour ça que je fais plein de choses à gauche à droite. C'est que si j'étais juste uniquement sur une partie, je m'ennuierais assez vite. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est que comme j'ai 2-3 casquettes en interne, ça me permet à la fois de avec ma casquette affaires publiques, je vais rencontrer le député un tel, ou je serai en contact avec le directeur de tel think tank, donc on parle des sujets politico-stratégiques, c'est super intéressant. Ensuite, je vais enchaîner avec une start-up qui me dit tiens, j'ai un truc qui peut révolutionner ça, comment tu pourrais me permettre de rencontrer un tel. Et puis le soir, je suis avec le mec de l'armée de terre ou des forces spéciales qui me dit tiens, quand on a fait ça, il s'est passé ça, c'était super intéressant, voici ce qu'on aurait besoin comme truc qui pourrait nous aider pour telle mission. Et si tu veux, j'ai un panel de mes
d'activités,
puis intellectuellement qui me nourrit, qui franchement aujourd'hui intellectuellement je m'ennuie pas parce que j'apprends tous les jours. Alors ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et moi je me connais, le jour où j'apprends plus dans mon métier, mais je m'en vais. Je connais mes limites. Je suis incapable de faire un métier où je ne m'épanouis plus intellectuellement. Donc c'est assez clair dans ma tête. Donc le jour où je m'ennuie, et c'est ce qui m'est déjà arrivé dans d'autres métiers, j'avais des bonnes conditions, je me plaignais pas, mais je tournais en rond intellectuellement, je dis écoutez, j'en peux plus, ciao les gars, quoi.
Ouais. Puis, de toute façon, ça va dans la droite ligne de ta vie si on regarde ton CV.
Exactement.
Parce que t'es professeur aussi.
Exactement. Alors, ça,
alors là, on sort du cadre J4, on fait juste une petite aparté, mais félicitations, j'ai vu Sciences Po.
Ouais, exactement. Alors l'anecdote, c'est que ce que je dis souvent, c'est que je me suis lancé un défi il y a 5-6 ans. C'est d'enseigner dans toutes les écoles qui n'ont pas vu de moi quand j'étais étudiant.
C'est joli.
En me disant,
c'est pas mal.
À un instant T de ma vie, vous m'avez juste sur des critères, encore une fois, c'est pas du tout injuste ou injuste, c'est vous m'avez dit que j'avais pas le niveau pour être étudiant chez vous, ok, dont acte, je vais me battre, avancer, je vais grandir, et je vais vous prouver que peut-être que j'avais pas le niveau pour être étudiant quelques années, mais maintenant je vais vous prouver que je peux y enseigner. Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'être donc maître de conférence à Sciences Po, d'être chargé d'enseignement à la Sorbonne, à Dauphine, à l'ENA, à l'Illéry. Et donc du coup, j'ai créé là récemment un diplôme à Sciences Po Executive Education.
Ouais.
Sur ce que j'ai appelé l'intelligence situationnelle et l'ingénierie humaine. Qui l'idée, c'est de le pitch de mon cours, en tout cas de mon certificat, c'est de dire que dans la vie, ça sert à dire le concours de l'ENA ou de Polytechnique. Ce qui fait la différence, c'est de réussir le concours de circonstances. Et donc, c'est ce que j'essaie de transmettre aux étudiants que j'ai déjà.
Ouais.
Et puis, à travers ce diplôme, encore plus structuré.
Ceux qui viendront.
Exactement. C'est de réenseigner des valeurs qui ne sont pas forcément des compétences techniques qu'on apprend à l'école,
ouais.
mais qui sont un peu des compétences de la vie. Et moi, j'ai théorisé des choses qu'on apprend sur le terrain. Donc, c'est comment avoir du bon sens, comment mettre en œuvre l'intelligence émotionnelle, comment être capable d'avoir de la chance. J'ai créé un module qui permet de théoriser sur comment avoir de la chance. Comment provoquer la chance. Tout un module aussi sur le réseau, sur dire que bah, personne n'est inaccessible dans le monde. Quand on a certaines méthodes et quand on se donne les moyens, qu'on a certaines, voilà, le culot, la prise de risque, la malice, eh ben, on peut toujours réussir à rencontrer la bonne personne. Et là, ça nous permet de nous ouvrir une porte et de créer des opportunités. Et donc potentiellement d'obtenir quelque chose où on s'est dit à la base. Et donc c'est ce que j'essaie de transmettre comme valeur à travers ça, c'est dire que son pire ennemi, c'est soi-même. Et que même si la phrase un peu bateau qui est de dire quand on veut on peut, c'est facile à dire,
il faut mettre
mais
en
on
place
peut
certaines
quand même
choses
se donner
pour,
certains
voilà,
moyens qui peuvent permettre d'y atteindre.
C'est
donc c'est ce que je fais aussi voilà, dans ces écoles depuis quelques années.
Ouais.
Et là maintenant ça se concrétise à travers un diplôme en tant que tel qui est créé sur cette thématique.
Et c'est ce que tu fais aussi avec des startups.
Exactement.
Au sein de Generate, on y arrive. Generate avec Aleph Networks,
ouais.
Numalis et avec d'autres qui viendront après,
ouais,
dans d'autres épisodes. Donc c'est pour ça que je voulais te rencontrer pour parler plus précisément de Generate. Alors,
yes.
Generate.
Alors Generate, je t'en ai un peu parlé tout
ouais,
à l'heure, mais
bah
c'est
ouais,
vraiment ça. L'idée, c'est de pouvoir accompagner des certes des technologies, mais des personnes. Et tu vois, il y a les personnes que tu viens de citer qui, au-delà des solutions qu'elles,
ouais,
apportent et autres, c'est des gens pour lesquels tu as envie de te battre, tu as envie de les aider, qui ont des super bonnes idées globalement, parce que nous, on n'est pas là, enfin, moi, je suis pas l'abbé Pierre, quoi, je suis pas là pour. Je le fais dans le milieu associatif, si je le fais, et je le fais déjà sur d'autres aspects. Mais aujourd'hui, une start-up qui vient me voir et que je décide d'accompagner, c'est parce qu'elle a une vraie solution qui apporte une plus-value, soit pour les armées, les forces de sécurité ou des industriels. Elle a un business plan qui tient la roue, donc voilà, elle sait de quoi elle parle. Et puis au-delà du projet, tu as aussi des gens que tu as envie d'aider, des équipes. Et voilà, Karine de Helica Team, t'as envie de l'aider. Aleph Network, Nicolas et
Céline.
Et Céline, évidemment, t'as envie de les aider.
Arnaud
qui est, que moi j'aime beaucoup sortir de temps en temps parce que les gens le voient, ils disent mais c'est quoi ce gars-là en costume avec des dreads.
C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet
et
avec
au bout
Arnaud.
De 10 secondes, et au bout de 10 secondes, quand il ouvre la bouche, tous les autres ils s'accrochent au truc parce qu'ils disent
là,
mais ce gars-là il va trop vite pour nous, ouais, il est brillantissime. Voilà, moi c'est des équipes que j'aime accompagner parce que, tu vois, un peu ce que je te disais tout à l'heure quand j'étais chez AXA, et c'est ce constat que je fais, et c'est des valeurs que j'essaie de transmettre, c'est qu'aujourd'hui, ta boîte dans les organisations les plus extraordinaires du monde ou les plus nulles du monde, c'est toujours l'humain qui va faire,
ouais,
la différence. Et j'ai déjà vu des boîtes qui étaient extraordinaires, hein, qui sont venues nous voir pour rentrer dans Generate. Vraiment, sincèrement, je pense qu'elles vont pouvoir décoller, ça va être des licornes dans 3, 4, 5 ans, mais je ne les ai pas prises parce que je ne sentais pas la personne.
D'accord.
Je sentais que cette personne-là, elle n'était pas dans le bon état d'esprit, elle n'allait pas être dans le mood qu'on essaie de créer au sein de Generate, parce qu'au-delà d'apporter des services et autres, moi je réunis de temps en temps mes startups dans des activités de cohésion aussi, pour vraiment que les gens qui se retrouvent ici, au-delà de bosser, ils soient contents de se voir. Ils se disent « Ah, c'est génial !»
C'est,
je vais
famille,
retrouver aujourd'hui,
c'est, voilà,
c'est le bootcamp, aujourd'hui c'est telle activité, on va boire des verres, on va bien bosser, on va bien discuter, on va bien avancer, mais on y va avec le sourire, quoi. On n'y va pas en traînant les pieds en disant « Ok, encore,
ah,
une,
encore
réunion,
une réunion, on va parler plus, de rien du tout. »
Voilà. Donc c'est un peu, et puis c'est ma philosophie aussi aujourd'hui, c'est d'être capable de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et pour moi, c'est un des vecteurs de l'efficience, c'est qu'aujourd'hui, quand tu travailles dans un cadre positif et avec de la bienveillance, bah, t'es 10 fois plus efficace que si tu vas entrer dans les pieds, quoi.
Ouais. Donc concrètement, Generate est né en quelle année?
Donc Generate est né officiellement en mars 2017.
Alors mars 2017, donc avec Mathilde, vous êtes lancée. Comment ça s'est passé au début pour recruter des startups, enfin pour dénicher la startup de demain, enfin la licorne de demain? Comment ça se passe?
On a pris nos bâtons de pèlerin avec Mathilde. On s'est dit, bon, bah voilà, on a attendu au tournant,
ouais,
on a 6 mois pour faire nos résultats, parce qu'au bout de 6 mois, si ça marche pas, on
ouais,
va certainement nous dire que next, quoi.
Ouais.
Et donc du coup, bah, on s'est dit, bah, c'est quoi les domaines d'avenir? On a discuté, bah, tiens, la lutte anti-drone, ok, c'est un sujet, ça. Donc on s'est fait une petite liste de sujets dans lesquels on pouvait entrer des cases, et puis après on a pris contact sur internet avec des gens, voilà, on vient de créer un accélérateur, on pense que vous rentrez dans les cases, sur tel salon on avait fait des flyers avec Mathilde, ouais, un peu à l'arrache, on les distribuait, et puis le bouche à oreille a bien pris. Surtout les premières promos, enfin en tout cas la première promo de start-up a été super content de ce qu'on a pu leur apporter, ouais, donc du coup elles nous ont recommandé, ce qui fait qu'aujourd'hui Generate, je ne prospecte même plus,
c'est-à-dire ouais,
ça vient à nous, soit parce qu'on commence à avoir une petite réputation dans le domaine, donc les gens nous connaissent, donc ils disent tiens c'est là qu'il faut y être parce que ça nous aide, soit les Generate actuels disent tiens je suis dans un accélérateur, c'est super, faut y aller, tu vas voir, ils vont beaucoup t'aider, ou soit l'armée de terre, la DGA ou autres disent on a repéré une, ouais, boîte, regardez ce qu'ils font, nous on trouve que ce serait pas mal qu'ils soient chez vous, comme ça ça permet de les suivre et de les cadrer un peu, donc aujourd'hui moi j'ai 3 à 4 candidatures par semaine,
ah ouais,
pour rejoindre l'accélérateur.
Et t'as une promo par an en fait?
Non, j'ai, là aussi je me fixe pas de quota.
D'accord.
Aujourd'hui on a entre 2 et 3 promos par an qui vont entre 3 et 8 startups à chaque fois.
Il y a des sujets, enfin il y a des projets de d'entreprises qui t'ont marqué, bon après mais vraiment des candidats.
Il y a tout, si tu veux. Moi j'ai un mec que j'aime beaucoup, c'est Julien Sacon de Nutech,
oui,
qui est oui, donc,
c'est
qui
le
fait des solutions de camouflage.
Ouais, c'est ça.
Qui lui, je l'aime beaucoup, Julien, parce que c'est un artiste.
Ouais.
C'est ancien opérateur des forces spéciales, vraiment un type ultra compétent dans son domaine.
Je mettrai un lien dans l'article, yes, pour renvoyer à son travail.
Et qui lui est vraiment quelqu'un de passionné. Moi, je l'ai vu travailler, je suis allé chez lui. Enfin, c'est un type qui est très attachant, qui est vraiment extraordinaire dans son domaine. Dans la même, alors pas sur le même domaine, ouais, mais à côté de ça, tu rencontres un Frankie Zapata que moi j'ai
oui,
eu.
Alors Frankie Zapata,
j'ai
oui,
eu le plaisir de de voir, d'échanger avec lui de temps en temps, et c'est un type qui a un parcours de vie et puis qui fait avancer le monde. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage qui a pas un diplôme d'ingénieur et qui a tout bidouillé lui-même et qui fait des choses que des gens qui ont 12 000 diplômes, dont je fais partie, seraient totalement incapables de faire. Mm-hmm. Et puis à côté de ça, t'es des rencontres humaines, avec des gens qui ont des parcours de vie. Moi, je suis toujours ouvert et j'apprends, tu dis, parce qu'à chaque fois qu'il y a une start-up qui vient te voir, elle m'apprend quelque chose.
Ouais.
On me dit tiens, ça, tu sais ça, on peut faire ça, ou on savait pas que. Ah, ok, d'accord, super. Et c'est aussi ça de me positionner au milieu de tout ça, pour que quand j'apprends quelque chose, je puisse le redistribuer aussi à des gens qui ont intérêt à le savoir, quoi.
D'accord. Tu as parlé tout à l'heure des bootcamps,
ouais,
et Arnaud nous a parlé aussi, ouais, des bootcamps. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Sur quel sujet vous échangez?
Alors ça dépend, si tu veux. Moi qui suis pas un grand démocrate, là, je le fais sur les bootcamps. C'est-à-dire qu'on en fait, alors hors Covid évidemment, mais 2 à 3 fois par an.
Ouais.
Je fais un mail de sondage auprès de mes industriels, enfin de mes startups. Et je leur dis, on va organiser un bootcamp certainement à telle date. C'est quoi les sujets qui vous intéressent? Ah bah financement export, subvention, pacte d'actionnaires, veille techno, enfin j'en, mm-hmm, sais rien, protection des données. Et donc en fonction de ça, moi je leur amène sous format d'une heure d'intervention à chaque fois.
D'accord,
donc je,
ouais,
les bloque une journée, ils se retrouvent tous ici au J4 et ils passent une journée où ils ont 6 à 7 interventions de gens qu'ils n'auraient pas forcément accès, parce que je fais quand même venir le numéro,
oui,
2 de telle chose, le général je sais pas quoi, et donc ils viennent pour ensuite prendre de l'information, échanger avec eux, et donc ils viennent prendre beaucoup d'informations, et surtout c'est l'esprit cohésion, parce que entre eux
ils,
et c'est
là,
ils
des,
surfilent,
voilà,
des enfants en disant tiens moi quand j'ai fait telle levée de fonds il s'est passé ça, attention de pas te faire avoir là-dessus, ou, donc en fait ils apprennent autant en discutant avec les gens qu'ils ont en face qu'avec leurs camarades, ouais, start-up qui ont eu les mêmes problèmes ou trouvé les mêmes solutions, quoi.
Alors c'est que des start-up, mais il y a un degré de maturité quand même.
Oui, il y a un degré de maturité, si tu veux. Nous on a des critères qui sont à la fois, il faut en mettre, donc on en,
oui,
met, mais on n'est pas strict là-dessus. C'est que aujourd'hui une start-up qui veut intégrer Generate, il faut qu'elle soit française, ça c'est,
oui,
le critère numéro,
oui,
1, qu'elle ait environ 5 ans ou moins d'existence, et qu'elle a un niveau de TRL 9, c'est-à-dire un niveau,
ouais,
de maturité technologique qui permette tout de suite une mise sur le marché d'un produit, quoi.
D'accord, ok.
Donc, si tu veux, c'est des critères. Après, nous, on essaie de, en général, faire du 50-50 défense et sécurité pour,
okay,
adresser les marchés,
ouais,
et dans l'idéal, 50-50 hardware et software. Pour pouvoir pas avoir que de l'IA et du cyber, parce que voilà, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie, aussi avoir du dur avec des trucs qui volent, des trucs qui se déplacent, pour mixer entre les deux, avoir une diversité des solutions qu'on peut proposer.
D'accord, donc il y a les bootcamps où on vient chercher de l'information.
Ben ensuite, nous, on les fait beaucoup participer à pas mal de choses, des activités du JICAT.
Oui.
Donc ils participent à tout. Hein. Là aussi, c'est ce qui fait une plus-value du Prime Generate.
C'est ce que Arnaud nous disait voilà. Dans Numalis, qui tu peux profiter
tu peux parler à tout le monde.
De tout ce qu'offre le JICAT, mais en n'étant pas du JICAT.
Aujourd'hui, en étant une start-up de Generate, tu as accès à pratiquement autant de choses qu'un Thales, un Airbus ou un Exter. Donc, ce qui est quand même oui, intéressant,
intéressant
pour une start-up qui paye une cotisation symbolique
oui.
À l'année. Mais bon, c'est pas grave. Nous, ça nous va très bien. Et c'est de montrer aussi que l'écosystème est là aussi pour s'entraider sur certains aspects. Donc, nous, on les associe à beaucoup de choses. Un projet qu'on voulait faire en 2020, mais qui a été avorté malheureusement à cause du Covid, c'est on voulait faire une learning expedition aux États-Unis.
D'accord.
Donc les emmener rencontrer l'écosystème de l'innovation de défense aux États-Unis, et qu'on avait déjà lancé des trucs avec la DARPA, avec l'OTAN, avec avec certaines unités, services américains travaillant sur l'innovation. Mm-hmm. Bon voilà, Covid maintenant.
Oui. Ça sera pour l'année prochaine.
C'est
ou l'année
pas
d'après.
Grave. On tombera sur nos pattes à un moment.
Oui.
Et puis après aussi des activités de cohésion. C'est qu'on essaie d'organiser, on a réussi à le faire, on est passé entre les gouttes en 2020 avec le Covid. On s'est enfermé 2 jours, on a pris un petit mat ferme, on s'est tous enfermés, on a fait des activités de cohésion, paintball, on a travaillé, voilà, on a fait puis un bon apéro.
Ouais.
Donc c'était très sympathique parce qu'on a pu bien bosser, mais dans un cadre convivial et très constructif. Et puis aussi, 2-3 fois par an, on fait des after-work.
Ok. Ouais.
Donc, on arrive des after-work de l'innovation, défense et sécurité, où là aussi, on est une centaine. Et moi, dans ces événements, je réunis tous les gens à tous les niveaux qui sont impactés par l'innovation. Donc, mm-hmm. évidemment, MedGenerate, les directeurs de l'innovation de l'industrie de défense, mm-hmm. Les responsables d'innovation des forces armées, des forces de sécurité, GIGN, RED, police, gendarmerie, douane, autres, des avocats spécialisés dans l'accompagnement des startups, des agences de communication spécialisées là-dedans,
ouais.
Des grands pontes des différents ministères qui viennent. Et c'est sympathique parce qu'on reste dans la même philosophie de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et donc, voilà, nous, ce qu'on demande, c'est t'enlèves la cravate,
ouais.
Tu prends ton verre de vin ou ton verre de champagne et tu discutes avec... et c'est là où aussi, c'est un peu notre salaire sur le côté de Genai. C'est que moi, j'ai beaucoup de startups qui viennent voir derrière en disant, bah, François, super, grâce à cet événement, moi, j'ai économisé 10 rendez-vous. J'avais jamais pu mettre la main sur ce gars-là. Bah, là, il était là, on a pu discuter, on va enclencher quelque chose. Quoi.
C'est exactement comme ça qu'Arnaud nous a décrit ton travail.
Ouais.
Bon,
organisateur d'apéro, c'est ça ?
Organisateur d'apéro, que tu viens chercher les gens par le col en disant vas-y, tu parles à lui, parce qu'il est vraiment intéressant. C'est ça, ça se résume à ça,
exactement.
Ton travail.
Entremetteur.
Entremetteur, voilà, parfaitement. Et une fois que les entreprises ont fini, sorte de diplômé, enfin,
ouais.
Il y a un diplôme.
Alumni, non, c'est pas un diplôme, c'est alumni. l'idée, c'est qu'en gros, donc, aujourd'hui, une start-up, elle vient pour 2 ans au sein
d'accord,
de Generate,
ouais.
Avec potentiellement 1 an en plus. On fait un petit bilan en disant, voilà, ça fait 2 ou 3 ans que tu es ici, t'en es où, est-ce que tu l'as. Donc, il y a plusieurs options. Ce qui est déjà arrivé par le passé, tant mieux pour elles, c'est au bout d'un an ou 2 ans, elles m'ont dit, bah, écoute, François, la défense, t'es bien gentil, mais en fait, à côté de ça, je travaille dans le milieu de l'énergie.
Et puis, ça
explose.
Je viens de signer
un énorme
ouais.
contrat. Voilà, moi, j'ai plus le temps de me consacrer à la défense. Moi, en fait, mon business model, il part vers l'énergie et l'environnement. Ok, bon, mais pas de problème. On se quitte, bons amis. Merci,
ouais.
Au revoir. Ensuite, il y a celle qui me dit, bah voilà, j'ai bien décollé, maintenant j'ai ça, j'ai fait tant de millions de chiffres d'affaires. Bon, bah je dis, bah écoute, maintenant t'es mûr pour rentrer dans la cour des grands.
Ouais.
Donc ton dossier, il va passer de Generate au JICAT, et maintenant tu peux devenir, si tu le souhaites, adhérer au JICAT, et au même titre que tous les autres, tu seras un membre, et tu feras partie de la BITD à part entière,
ouais.
Puisque t'es membre du JICAT.
Mm-hmm.
Et après, il y en a entre les deux où encore on se pose des questions, donc on se donne 1 an, on réfléchit, on évolue. Et puis là, le cas n'est pas arrivé, mais aujourd'hui, alors évidemment, ça c'est la vie de l'entrepreneuriat. Il
mm-hmm.
y a quelques startups qui sont venues chez nous qui ont disparu parce que les,
oui.
les entrepreneurs entre eux sont
oui,
plus entendus, ou il y a eu un repositionnement, il y a eu un rachat, enfin bref. Mais aujourd'hui, on est assez content parce qu'on a très peu de pertes entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent parce qu'il y a un vrai processus de sélection qui fait qu'on essaie quand même de voir s'ils ont les reins solides. Après, en 2-3 ans, il peut se passer plein de choses. On n'a pas la prétention de faire du 100% et ça n'arrivera jamais. Mais on essaie de s'en rapprocher le plus possible pour pousser des pépites à la réussite.
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un sujet, tu penses, qu'il faudrait
Non, mais moi je te dis, je travaille beaucoup dans une logique d'insertion collective à faire travailler des gens, et moi qui m'intéresse beaucoup à de la sociologie des organisations, mm-hmm. et aujourd'hui j'ai quand même dans le secteur de la défense pas mal de réticence plus culturelle hein, qu'intellectuelle, parce qu'il y a des gens brillants comme dans beaucoup d'autres domaines, mais plus des réflexes de l'ancien temps qui sont difficiles à combattre pour permettre à notre pays, hein, parce que l'idée c'est pas les startups dans un ouais. coin, les PME dans un coin, les grands groupes, c'est de pouvoir faire travailler tout le monde ensemble, hein, et c'est comme ça qu'on s'en tirera. Je vois quand même une culture de l'innovation dans la défense qui est très difficile à faire bouger, et donc moi ma philosophie c'est de à la fois avoir des quick wins qui permettent de montrer que ça peut marcher à un bas niveau, mm-hmm. et puis aussi grâce à mon étiquette affaires publiques, et bah pouvoir aller taper assez haut pour faire passer des idées au plus haut niveau sur ces sujets-là, et qu'un jour si tu veux, on arrive les quick wins et les trucs se rencontrent. Et ça s'inscrit tout à fait dans la stratégie de la mini sur le sujet, dans la création de l'agence Innovation Défense et la philosophica Emmanuel qui va derrière.
Vous bossez beaucoup avec l'AID
Ouais, on échange régulièrement avec eux. Donc Logicat est partenaire de l'AID.
Ouais.
Donc on échange régulièrement. Typiquement, voilà, l'AID participe au jury. Ils envoient un représentant. Dans chaque jury pour Generate. Ouais. On échange régulièrement notre veille. Puis voilà, le canal avec Mathilde, oui. évidemment, est facile.
Naturel.
Parce qu'on est amis. et puis pareil qu'Emmanuel qui va. Ouais. Même si voilà, on est chacun à notre place et oui. ils font ce que fait l'État et nous, on fait ce que fait l'industrie. Et parfois, on s'engueule parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines visions des choses. Et, mm-hmm. et pour moi, c'est sain. Mais on a une relation qui est constructive dans une logique partenariale.
Ouais, et puis c'est bien de faire se rencontrer les industriels et le monde des institutionnels. Parce que parfois, surtout pour moi, je pense plutôt du côté PME ouais. et du côté start-up, quand on a une bonne idée, c'est vrai que réussir à en faire quelque chose, c'est un peu comme une patate chose. C'est-à-dire, on se lance, on a une bonne idée, on sait parfois qu'on a une bonne idée, mais comment faire ? Chez qui on va taper ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour se développer, pour faire comprendre aux gens que c'est une vraie bonne idée, il faut juste s'en saisir, mais parfois c'est trop compliqué.
Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit souvent sur certains aspects. On m'a dit avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. et c'est vrai. Et pour moi, une partie de l'innovation, c'est pas d'avoir des bonnes idées d'innover, c'est de jamais lâcher l'affaire. Et vous pouvez avoir une bonne idée à un instant T, si c'est trop tôt, et bah vous êtes foutu, vous êtes mort. Donc peut-être qu'il faut le sortir dans 2-3 ans, ou il faut harceler pendant 3 ans en disant que c'est ça qui peut changer. Et moi, je le constate au sein de Generate, même plus globalement ouais. Dans ce que je fais à gauche à droite, c'est que même si vous avez une bonne idée, si soit vous ne l'avez pas amené de la bonne manière, ou la personne en face n'est pas prête à l'entendre, bah ça a beau être quelque chose d'extraordinaire qui va changer le monde, vous aurez tort. Donc c'est comment être capable de jouer sur cet alignement des planètes pour que l'innovation elle soit naturelle, et elle soit quelque chose qui peut être constructif, en tout cas que la personne en face ait intérêt à vous soutenir dans cette innovation. Et ça, c'est pas une science exacte, on en revient à l'humain, et c'est pas facile. C'est pour ça que moi je fais beaucoup de choses qui me nourrissent en dehors de la défense, intellectuellement, pour me permettre de piocher des idées à gauche à droite, dans l'associatif, dans l'enseignement, dans plein de choses, et je pioche toujours des petites idées à gauche à droite qui me disent ah, bah tiens, j'ai vu ça dans l'associatif, c'est pas bête, peut-être qu'on pourrait l'utiliser,
l'appliquer,
ils ont réussi à faire ça, donc ouais. J'y avais pas pensé.
D'accord.
D'où mon côté un peu hyperactif,
ouais.
qui fait que tous les ans je me rajoute encore des choses parce que j'ai cette soif de connaissances et de rencontres qui me nourrit. Et moi, le jour où intellectuellement j'arrive plus à m'épanouir, ça ira pas bien, quoi.
Non, mais c'est des très bons conseils. Est-ce que tu as d'autres choses pour les auditeurs qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine? Hein, pas forcément défense et sécurité. Est-ce que t'as des petits conseils, toi, des petits tips pour les gens?
Je vais pas faire celui qui donne des conseils là-dessus, parce que je suis pas un entrepreneur en tant que tel, ouais. Même si j'entreprends
même
toutes les 30 secondes.
T'entreprends, mais t'aides aussi des
j'ai
entrepreneurs.
J'ai créé 10 000 choses et je passe ma vie à aider des entrepreneurs. Mais les trucs de base, tout le monde peut le faire. Créer un business plan, telle chose. Moi, ce que je vois, ce qui fait la différence chez les gens qui arrivent à déboucher sur des choses, un, c'est parce qu'ils sont bien entourés. Et quand je dis bien entourés, c'est pas forcément des gens brillants, c'est des gens qui vont les challenger et qui sont là pour les motiver. Donc qui à la fois vont dire, écoute, ça, non, ça va pas. mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, on va pouvoir t'accompagner. C'est aussi ce que nous, à un petit niveau,
oui.
on fait. Moi, je fais souvent le bad cop au Jardinerie. Je dis, attends, écoute, là, j'ai rien compris à ton truc. Donc, tu vas tout le... expliquer.
Reprends du
on
début.
Va reprendre un plat, on va rebosser le truc. Ok, non, c'est pas encore ça. Et puis, step by step, tu t'améliores, mais toujours dans une logique vertueuse et constructive et pas uniquement tailler pour tailler. Et puis après, c'est ce que je te disais, c'est l'abnégation. Moi, j'ai vu des gens se prendre des murs, et voilà, la vallée de la mort, à un moment, l'entrepreneuriat, elle est dure. On la connaît. On se dit, on est prêt à lâcher, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans ? Ce serait beaucoup plus facile d'avoir mon boulot en CDI.
D'être salarié, et puis voilà.
C'est ça. Voilà, exactement. Et ça, il faut être très courageux, soit tout seul ou soit en équipe, mais l'abnégation, elle paye toujours. Le trial abnégation, c'est jamais du 100%, ça se saurait, mais ça permet quand même d'augmenter les chances. Donc, voilà, la réussite, elle vient souvent en ayant du travail qui est derrière. Et tu vois, moi, pour avoir fait du foot à certains niveaux à une époque, j'avais discuté avec des gens, et notamment, j'avais une rencontre de quelqu'un qui avait été l'entraîneur de Zidane. Et quand j'étais tout petit, donc moi, Zidane, c'était extraordinaire.
Zizou.
Et il m'avait dit, mais tu sais, Zidane, certes, il avait déjà des gènes qui, quand même, l'ont oui. beaucoup aidé à réussir, mais il est devenu ce qu'il est devenu. Parce que c'était le type qui, avant l'entraînement, arrivait une heure avant pour taper contre un mur avec son ballon, et qui, une heure après, faisait des jongles à quand tous les autres étaient déjà rentrés chez eux. Quoi. Et donc, certes, le talent, c'est bien, mais le travail, c'est quelque chose qui vient concrétiser le talent, et si tu arrives à gérer les deux, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas.
Et puis, il faut se challenger.
Exactement.
Ce qui me permet de faire un petit lien avec ta descente dans la grotte qui arrive... très prochainement, et Exactement. Puis ça sera le mot de la fin. Est-ce Exactement. Que tu veux nous en parler pour faire un petit peu peut-être la promo de cette expédition?
Donc, j'ai le plaisir, moi, depuis 5 ans, d'être au comité directeur de la Société d'explorateurs français,
oui.
donc, qui est une association ancienne qui réunit des gens que, avec des petits noms comme Thomas Pesquet,
des petits
Patrice
noms.
Franceschi, Antoine de Maximi et autres.
Oui.
Et donc moi, je rencontre ces gens-là et c'est extraordinaire. Donc ils m'ont reconnu comme sociétaire en tant que tel, donc comme explorateur. Donc ça a été une grande fierté pour moi à l'époque. Et là, je participe donc très prochainement au projet Deep Time.
Je mettrai le lien aussi dans le...
Ça marche. Et qui est donc une expérience pour tester les limites chronobiologiques du corps humain et l'adaptation d'une mini-société dans une anonymie totale, en étant coupé du monde, pour savoir comment aujourd'hui on est capable de se synchroniser ou non en sein d'un groupe humain qui n'a aucun repère extérieur. Donc on part dans la grotte de Lombrive début mars pendant 40 jours à 14 personnes. Pour voir en gros si on sort en étant complètement fou, en étant complètement déphasé, si au final l'humain est capable de s'adapter à des conditions qu'il ne connaît pas du tout.
C'est génial. Moi, j'espère. Je trouve ça génial. Bah, écoute, je te souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Toi et tout ton groupe, et puis pour Generate, pour
Merci à toi.
La suite au J4. Merci infiniment de m'avoir reçu à Paris.
Avec plaisir.
Et puis à très bientôt.
À très bientôt, Marjolaine.
Merci encore à François et au J4 de m'avoir accueilli pour l'enregistrement de cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver de plus amples informations dans un article dédié sur le site internet de Slice, www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slice. Je recevrai un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais, preuve que la perfection n'existe pas. Jusque-là, prenez soin de vous, à très bientôt. Avant de vous quitter, et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à lui laisser 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous souhaitez encore plus soutenir Slice, abonnez-vous !